puisque nous allons continuer à parler de corruption, je vais faire réagir nos deux invités, le journaliste de Mediapart Fabrice Arfi et la juriste Maude Perdriel-Vessière. Bonjour. Maude Perdriel-Vessière, vous êtes membre de Transparency International France et vous êtes ancienne directrice de l'association Sherpa qui est spécialisée dans ce domaine. Frédéric a cité un chiffre assez élevé, 60% des sondés interrogés par le CEVIPOF, le Centre d'études et de la vie politique française, en 2006, pensaient que nos élus sont aujourd'hui corrompus. Qu'en pensez-vous? S'agit-il donc effectivement d'une présomption de culpabilité fondée? Nos élus en France sont-ils particulièrement corrompus?
Déjà, il faut quand même préciser que les chiffres montrent à 2006. Qu'entre-temps, il y a eu quand même un certain nombre de lois, dont les lois de 2013 sur la transparence. Il y a des lois qui ont été publiées la semaine dernière, qui ont pour but justement d'améliorer la transparence de la vie politique et qui, très certainement, vont, si c'est pas déjà fait, améliorer le classement de la France. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais Transparency International publie chaque année ce qu'on appelle un indice de perception de la corruption qui a des lacunes. Enfin, ça reste un indice de perception. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement le reflet ou l'état de la corruption dans un territoire donné.
La France. Qu'est-ce que ça donne pour la France?
Voilà, la France. Donc, cet indice, il a été publié en 2016, mais il se base sur des travaux réalisés en 2015. Donc, la France n'est pas encore extrêmement bien placée. Elle se situe à côté des Émirats, du Qatar, de l'Estonie.
Nous sommes un pays moyen, pour dire les choses de manière euphémisée.
Non, mais parfaitement. C'est pas. Après, il faut laisser aussi le temps aux lois nouvelles vraiment d'être mise en œuvre et donc de produire un effet dans l'esprit des gens. Et puis il ne faut pas oublier aussi que dans cette même période très récemment, il y a eu un certain nombre d'affaires qui ont fait l'objet de procédures pénales, qui ont été médiatisées, etc. Donc du coup, dans l'esprit des gens, la vie politique est encore extrêmement corrompue.
Et si on essaye de se sortir de la perception de la corruption pour tenter d'évaluer, c'est très compliqué, la corruption réelle, pensez-vous que celle-ci en France soit particulièrement fréquente?
Ça me permet d'opérer une transition vers la corruption internationale. Donc, bon, la corruption en France, elle est évidemment telle que déjà la plupart des gens la ressentent, etc. Et donc les chiffres parlent plus ou moins d'eux-mêmes là-dessus. La corruption, elle est présente partout. Elle est associée d'une manière générale à la vie politique, malheureusement. Après, c'est plus une différence de degré qu'une différence de nature. En France, évidemment, il y a de la corruption. Cela dit, la corruption n'a jamais empêché qui que ce soit de marcher sur des routes bitumées ou bien d'aller à l'université, ce qui n'est pas le cas dans un certain nombre de pays africains. Donc c'est vraiment là que se situe la différence.
Même si on a connu certaines universités en France où on pouvait acheter des diplômes. Fabrice Arfi, dans le billet politique de Frédéric Seyss, il y avait le rappel, un rappel que vous connaissez bien, ce qu'on appelle la prime à la casserole, le fait que certains élus n'ont pas été freinés dans leur carrière politique par des affaires qui leur traînaient au basque. Et je crois même qu'un ancien président du nom de Jacques Chirac, qui a lui aussi eu un certain nombre d'affaires auprès de la justice, et conserve une cote de popularité et de sympathie extrêmement élevée dans l'opinion. Est-ce que tout cela ne vous fait pas réfléchir sur votre pratique, sur le fait que, bon, dans l'opinion, ça n'imprime pas, comme le disait Frédéric?
Ouais, je plaide coupable. Je plaide coupable et je crois une grande partie des médias, même si je ne sais pas très bien ce que sont les médias, devons plaider coupable face à cela. On plaide coupable, on doit plaider coupable parce que nous ne savons pas faire encore assez la pédagogie de la corruption. Nous n'arrivons pas à faire comprendre que la corruption, ce ne sont pas des faits divers financiers plus ou moins spectaculaires avec des gens qui tombent, des gens qui se relèvent, qui flotteraient au-dessus de nos têtes, que nous sommes tous dans un pays les victimes invisibles de la corruption. C'est un braquage. C'est un braquage qui n'est pas un braquage avec une arme, mais c'est un braquage. On nous vole quelque chose. Les administrés des villes citées sont les victimes. C'est leur argent qu'on prend dans leur poche. La fraude fiscale, c'est un schéma très simple. C'est l'enrichissement d'un seul qui provoque l'appauvrissement de tous. L'argent de la corruption, l'argent de la prévarication, c'est un argent qui est soustrait au service public,
Fabrice,
à la richesse des nations.
En 2002, il y avait un chiffre qui m'avait particulièrement frappé. Lorsqu'on demandait aux Français lequel des deux candidats à la présidentielle était le plus honnête, de Jacques Chirac ou de Lionel Jospin, c'était Lionel Jospin qui avait une cote d'honnêteté bien supérieure à Jacques Chirac. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite. Est-ce que ça ne signifie pas que finalement, les Français ne votent pas en faveur de quelqu'un d'honnête?
Mais encore une fois, moi je suis pour la pédagogie du clou. C'est-à-dire que...
Mais non, mais peut-être qu'ils ont très bien compris ce que vous racontez, simplement. Non, s'en fichent.
Non, je pense que nous ne faisons pas assez comprendre. Prenons l'exemple de Levallois-Perret. Bon. Ah, Levallois-Perret,
c'est... Patrick Balkany.
C'est la ville la plus endettée de France. Voilà. Pourquoi ? Parce que le système Balkany. C'est la ville la plus endettée de France. Le jour où le système tombe, et si les créanciers de Levallois se retournent vers la mairie, les victimes de ce système, ce seront les administrés qui sont ravis d'avoir des cadeaux de la ville. Mais avec quel argent on leur offre ces cadeaux ? Avec le leur, et qui payent déjà des impôts. Donc, tant qu'on ne fera pas comprendre qu'il y a des victimes directes, pas que symboliques, c'est-à-dire d'un point de vue démocratique, le tous pourri qui est évidemment un sentiment contre lequel il faut absolument lutter, parce que ça n'est pas vrai, l'idée d'une justice à deux vitesses, mais ça c'est la facture symbolique de la corruption. Mais la facture financière, nous la payons.
Frédéric Seitz.
Une question sur cette fameuse prime à la casserole. Est-ce qu'on n'assisterait pas tout de même à l'amorce, peut-être, ayons l'espoir, d'un léger changement d'époque? Je fais allusion au résultat de la primaire où il y avait deux favoris qui s'appelaient Nicolas Sarkozy et Alain Juppé pour le deuxième tour. L'un a été condamné, Alain Juppé. Nicolas Sarkozy a été plusieurs fois mis en examen. Les deux ont perdu et le gagnant, François Fillon, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, n'a pas été touché par des affaires. À votre avis, ça marque un changement d'époque ou ça n'a rien à voir avec tout cela?
Ah si, si, je
Fabrice Arfi.
Si, je pense qu'il y a, comme vous le dites, malgré tout, un virage qui commence à être pris. Alors, je prends une expression, c'est-à-dire, je considère que la corruption, c'est comme un coffre-fort, une porte blindée, et on passe petit à petit du plumeau au burin pour la fracturer. C'est bien, c'est de mieux en mieux, il y a des évolutions, il n'y a pas de doute là-dessus qu'il y a des évolutions positives. Mais ça n'est pas suffisant, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a des réformes structurelles pour changer notre rapport culturel, politique, institutionnel et même judiciaire vis-à-vis de la corruption, notamment le manque de moyens hallucinants des pouvoirs de police et de la justice. On est dans un système en France où pour que les affaires aillent au bout, ça repose sur l'indépendance, le courage et l'audace des individus, de juges, de procureurs, de policiers, de douaniers formidables. Mais moi, j'ai tendance à penser que dans une démocratie, ce sont les institutions qui doivent être indépendantes, audacieuses et courageuses.
Maud Perdriel-Vessière, les journalistes ne sont pas seuls pour faire de la pédagogie en matière donc de corruption. Il y a aussi des ONG. Vous travaillez dans une ONG qui est spécialisée dans la lutte contre la corruption. Lorsque vous jugez à l'échelle mondiale maintenant, quels sont les pays, quels sont... J'ai envie de dire les typologies de pays qui sont les plus corrompus aujourd'hui, puisque vous nous avez dit que la France était dans une situation médiane.
J'ai pas parcouru le classement IPC en détail, mais bon, il est clair que, et en plus, sans compter comme je le disais précédemment, c'est quand même un indice de perception. Après, ce qui est évident au niveau international, c'est que c'est quand même en Afrique, où, enfin, très souvent, les pays pauvres, en fin de compte, les pays pauvres, enfin, riches en matières premières, mais pauvres en termes de développement humain, sont très souvent des pays qui connaissent un gros taux de corruption. C'est effectivement un sujet sur lequel Transparency International France, pardon, travaille. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier de l'affaire des biens mal acquis, mais c'est une affaire qui a
été... Rappelez-nous en quoi elle consiste.
Donc, c'est une affaire qui a été initiée par Sherpa, donc, en 2007, qui consistait précisément, en fait, à dénoncer l'enrichissement illicite d'un certain nombre de chefs d'État africains et des membres de leur entourage, de leurs proches associés. Et donc l'idée, c'était de déposer plainte en France pour blanchiment, de détournement de fonds publics, d'abus de biens sociaux, de corruption, en se basant donc sur le patrimoine qu'avait accumulé un certain nombre de dirigeants sur le sol français. Et cette affaire qui a donné lieu à un certain nombre de développements intéressants au cours des 10 années, mais effectivement ça a mis 10 ans précisément parce que les moyens de la justice sont ce qu'ils sont, entre autres, et pas seulement, parce que c'est quand même une affaire éminemment politique. Finalement, le 2 janvier prochain, s'ouvre le procès de Théodorine Nguema Obiang, qui est le fils du chef d'État de la Guinée équatoriale, qui est également surnommé le Playboy, puisque c'est un jeune homme, puisqu'il n'est pas extrêmement vieux, donc je me permets de dire ça, qui a, pour le coup, mais profiter de son statut, puisqu'à l'époque, en 2007, lorsque la plainte a été déposée, il était ministre de l'Agriculture au sein du gouvernement de son papa pour s'enrichir illicitement. Il y a eu des saisies spectaculaires de ces véhicules qui ont été opérées dans le courant de l'année 2011. Il a un immeuble, enfin c'est un hôtel particulier, avenue Foch, qui est complètement, totalement extravagant, avec une boîte de nuit, une piscine, une salle de cinéma qui a également fait l'objet d'une saisie. Après coup, il est devenu vice-président de la Guinée équatoriale pour tenter de se prévaloir de son immunité et donc échapper aux poursuites pénales en France. Ce qui ce qui ne semble pas être la position retenue par les magistrats instructeurs, dont il faut saluer l'audace, hein, puisque c'était évidemment pas gagné. Et donc voilà, donc le procès s'ouvre le 2 janvier prochain, donc il y a des batailles qui avancent et l'on s'en réjouit. Il y a un autre aspect à la corruption transnationale, c'est celle qui concerne les entreprises, parce que pour qu'il y ait un corrompu, donc des agents publics étrangers qui s'enrichissent, il faut aussi qu'il y ait des entreprises qui soient quand même désireuses d'obtenir les marchés et donc prêtes à verser des pots de vin pour les obtenir. Et donc là aussi, il y a quand même un certain nombre d'avancées.
Lesquelles ?
Tout simplement la loi, en fait, la loi Sapin 2 qui a été publiée la semaine passée, donc le 9 décembre, après qu'elle ait fait l'objet d'un examen par le Conseil constitutionnel. L'idée, c'est que cette loi, elle va permettre de mieux réprimer la corruption transnationale, mais également de préserver, de protéger en quelque sorte les entreprises françaises. Parce qu'il faut savoir que quand on s'attaque à la corruption transnationale, il faut avoir à l'esprit deux intérêts. Tout d'abord, évidemment, réprimer la corruption transnationale qui fausse la libre concurrence dans les affaires internationales. Mais aussi, il faut quand même sauvegarder les intérêts français, puisque il faut savoir que, en l'occurrence, la plupart des poursuites en matière de corruption transnationale, où la France, pour le coup, elle est extrêmement mal classée, puisque depuis l'introduction de l'infraction dans notre dispositif pénal, pas une seule entreprise a fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits de corruption d'agents publics étrangers.
Zéro.
Donc,
on est mal classé.
Alors, il y a un certain nombre de raisons à cela et un certain nombre d'obstacles qui, on l'espère, seront soulevés avec les nouveaux dispositifs mis en place par la loi Sapin 2. Tous ces nouveaux dispositifs, je vais pas les évoquer, mais en tout cas, l'idée générale, je pense que c'est vraiment de mieux réprimer, c'est-à-dire de donner les moyens à la justice de pouvoir apporter une réponse pénale, enquêter sur des faits de corruption transnationale et dans le même temps de préserver les intérêts français, surtout face à l'impérialisme américain en la matière, parce que j'aimerais juste rappeler un chiffre, c'est le nombre d'entreprises françaises qui ont été condamnées aux États-Unis pour des faits de corruption d'agents publics étrangers, et puis le montant des amendes qui leur est associé. Donc Technip, 240 millions de dollars en juin 2010. Alcatel-Lucent, 92 millions de dollars en décembre 2010. Total, 245 millions de dollars en mai 2013. Et tout dernièrement, c'était Alstom qui s'est vu infliger une amende record de 772 millions de dollars en décembre 2014. Donc ça, ce que je veux dire, c'est que la lutte contre la corruption transnationale, il y a aussi des dommages collatéraux. Et donc, c'est pour apporter cette réponse équilibrée que la loi Sapin...
Les États-Unis n'ont pas inventé les faits de corruption.
Ah non, pas du tout. Les faits de corruption n'ont pas été inventés.
C'est le drame, c'est qu'il faut que ce soit les États-Unis qui enquêtent pour trouver des faits de corruption dans des sociétés françaises.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ça pénalise les entreprises françaises, ça pénalise
elles sont victimes d'elles-mêmes.
Mais la prospérité collective...
Elles ont qu'à pas faire de la
corruption. Non, mais bien sûr, mais ça pénalise aussi... en pénalisant les entreprises françaises, on pénalise aussi la prospérité collective française. Donc c'est un juste équilibre qu'il faut trouver entre...
On n'a qu'à pas faire des pots de vin.
Non, mais il faut savoir aussi que bon nombre, enfin les Américains ont tendance aussi parfois à taper sur les entreprises étrangères plutôt que sur les entreprises américaines. Certaines, donc voilà.
Absolument. On écoute un chef d'État étranger, Silvio Berlusconi.
Je pense que serait difficile de me mettre en prison. Parce que j'aurai immédiatement une grande majorité dans le pays aux prochaines élections. Et en plus, comme personnellement, j'ai un âge très important et je n'ai peur de rien. J'aime mon pays. Je ne peux pas terminer mon aventure humaine de patriote et d'homme d'État en fuyant de mon pays.
Vous voyez, Fabrice Arfi, il n'y a pas qu'en France où finalement les hommes politiques bénéficient d'une certaine impunité.
Il le dit en français, quel hommage.
Ils sont corrompus, ils parlent bien français. Frédéric Saïs.
Une question sur l'arsenal qu'on évoquait à l'instant, l'arsenal anticorruption. Il y a eu cette affaire Cahuzac sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, Fabrice Arfi évidemment. Et il y a eu cette réaction de François Hollande qui a profité de cette opportunité pour faire un discours, la voix un peu blanche d'ailleurs parce qu'on sentait qu'il était touché, qui a mis en place quelque chose qui s'appelle le PNF, le Parquet National Financier. À l'époque, ça a été vendu entre guillemets par l'entourage présidentiel comme une révolution. On allait sortir de ce face-à-face que vous évoquiez entre des juges qui font un peu de l'artisanat et puis l'industrie de la fraude avec très peu de moyens. Est-ce que ça a eu des effets concrets selon vous? Est-ce qu'on a là aussi changé d'époque?
Non, mais indéniablement. Mais alors, le parquet national financier dans le système judiciaire, le parquet, il est composé des procureurs. En droit français, les procureurs, ce sont eux qui ont ce qu'on appelle l'opportunité de poursuite, qui est un barbarisme judiciaire, qui en fait, c'est eux qui ouvrent les enquêtes et qui en délimitent le champ.
Procureurs qui dépendent de la chancellerie.
Voilà, donc c'est le problème. Hein. Je ne vais pas faire la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Arrêt Medvedev quand même, qui nous dit que les procureurs français, parce qu'ils ne sont pas indépendants, ne peuvent pas être considérés comme des magistrats, parce qu'ils sont soumis au pouvoir exécutif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des procureurs et au PNF qui sont formidables et indépendants dans leur tête. Ils ne le sont pas statutairement. Pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a eu des avancées ? Évidemment que oui. Depuis la création du PNF en avril 2013, après l'affaire Cahuzac, on en est aujourd'hui, en termes de saisie conservatoire dans le cadre des enquêtes, à 1,5 milliard d'euros de saisie dans les enquêtes, notamment parce qu'on a enquêté sur les banques comme UBS ou HSBC. Donc, je reviens là-dessus. 1,5 milliard d'euros, c'est notre argent, c'est la richesse de notre nation. En France, l'évasion et la fraude fiscale, c'est entre 60 et 80 milliards d'euros de manque à gagner pour les caisses de l'État par an. Le déficit public en France aujourd'hui, c'est 75 milliards. On y est.
Un mot de conclusion, mot de
Non, je voulais juste réagir sur ce que venait de dire Fabrice Arfi et plus généralement sur le parquet national financier et dire que effectivement, le parquet est relié à l'exécutif, etc. Mais il faut quand même encore une fois saluer les lois qui ont été introduites en 2013 et qui ont pour but précisément de faire en sorte que les magistrats soient plus libres et que le pouvoir exécutif ne s'immisce pas dans les affaires individuelles. Et après, et ça rejoint aussi ce que vous disiez précédemment, Fabrice Arfi, c'est une histoire de changement de mentalité, c'est-à-dire que les lois ont beau être là, il faut encore que ça se traduise par des actes concrets, que ça se traduise dans la pratique. Et ça, c'est vraiment à base de... Enfin, c'est la pédagogie et donc le travail d'association ou le travail de Mediapart, de la société civile, des journalistes qui peuvent permettre de faire évoluer les mentalités pour se rendre compte que l'intégrité, c'est une valeur qui est bonne.
C'est une compétence.
Voilà.
Merci d'avoir fait le point donc sur la situation de la France vis-à-vis de la corruption, cette situation dans le monde.